Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou et Fanny Cohen-Moreau, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Juliette L'Orphelin. À la technique ce matin, François Saint-Jour. Porter son regard cette semaine sur la passionnante conférence consacrée au philosophe Pascal donnée en 2018 par le professeur de littérature française à l'université Lyon 2, Laurent Tirouin, et qu'on peut visionner intégralement sur le site de Canal U. Ça s'appelle Blaise Pascal aux limites de la raison, plongé d'1h40 dans la vie et l'œuvre du brillant mathématicien et moraliste, émaillé d'impérissables citations telles que celle-ci tirée des Provinciales. Tous les efforts de la violence ne peuvent affaiblir la vérité et ne servent qu'à la relever davantage. Toutes les lumières de la vérité ne peuvent rien pour arrêter la violence et ne font que l'irriter encore plus. Un peu plus loin, la violence et la vérité ne peuvent rien l'une sur l'autre. Nous mettrons un lien vers la conférence sur le site de l'émission. Ces textes figurent dans certains cursus scolaires et elle est l'auteur d'un Que sais-je, la collection d'ouvrages de référence sur tout ce qui existe. Notre invité est donc un auteur classique et incontournable quand on s'interroge sur la question du travail. Menant une réflexion philosophique et sociologique sur la place de ce dernier dans nos sociétés, cet énarque et agrégé de philosophie est co-titulaire de la chaire Reconversion écologique, travail, emploi et politique sociale au Collège d'études mondiales de la Fondation Maison des sciences de l'homme et dirige l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociale. Également présidente de l'Institut Veblen, elle enseigne la sociologie à l'Université Paris-Dauphine PSL et vient de publier chez Flammarion un recueil de ses chroniques parues dans Le Monde sous le titre « C'était les années Macron ».
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Dominique Méda.
Bonjour Eva.
Êtes-vous contente d'avoir été mise au monde ?
Oui, bien sûr.
Bien sûr, c'est une évidence.
Bah c'est une expérience par définition unique et absolument passionnante. Puis enfin, j'ai la chance que ça a été une expérience passionnante, alors que pour un certain nombre de personnes, ça peut être quelque chose d'absolument épouvantable.
Oui, je pense qu'on va en parler beaucoup au cours de cette émission. Comment se passe la cohabitation avec vous-même ?
Ça va bien. J'ai parfois des doutes, j'ai parfois des hésitations, quelquefois je me déçois, mais globalement ça va.
Quelquefois, vous vous décevez, par exemple, si vous ne voulez pas donner d'exemple concret, je le comprends tout à fait, mais dans quel domaine, par exemple ?
Je ne sais pas, quand je n'ai pas été assez énergique, quand je n'ai pas réussi à défendre une position, quand j'ai été un peu trop, vous savez, comme quelquefois on reproche aux filles de l'être, un peu trop timide, voilà.
Oui, je vois. Ce qui vous donne envie de vous lever, Dominique Méda, c'est la possibilité de contribuer à changer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, la marche du monde. Vous passez votre temps à avertir, mettre en garde, montrer, comme le dit l'un des livres que vous avez coécrit, qu'une autre voie est possible, et ces possibilités sont peu ou lentement appliquées. N'êtes-vous jamais découragé ?
Découragée, non, parce que je crois que je suis assez volontaire, donc, et puis peut-être que je suis un petit peu... Je ne comprends pas assez ce qui se passe et donc je suis têtue. Et donc je continue imperturbablement à espérer en effet que les petites bouteilles que je jette à la mer finiront par être ouvertes.
Vous arrivez à vous réjouir des petites avancées. Quelles sont-elles ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques bonnes nouvelles ? On en entend si rarement.
Oh là, oui, d'accord.
Je vous pose une colle.
La prise de conscience générale que notre monde dysfonctionne.
Oui.
Je pense que là, ça y est, on est en train de comprendre des choses, même si encore de nombreuses personnes ne l'ont pas compris. Et donc, il faut perpétuellement, j'aime pas dire faire de la pédagogie, mais voilà, informer, discuter, se battre pied à pied, voilà.
Y a-t-il une chose dont vous êtes contente qui vient de se produire ?
Vos questions sont terriblement difficiles.
Oh, je suis désolée, c'est parce que c'est vous qui... Vous êtes ma muse et vous m'inspirez ça.
Bah, par exemple, faire cette émission, c'est absolument formidable parce que ça nous fait une occasion de plus de pouvoir entrer en résonance, en communication, en discussion, en conversation. Vous faites une grande conversation et donc, moi, ça me permet de rentrer en conversation avec une multitude de personnes. Je vous en suis très reconnaissante.
Bah, écoutez, merci, ça me touche. Dans votre ouvrage qui regroupe vos chroniques parues dans Le Monde, Dominique Méda, c'était les années Macron. Vous racontez dans la préface, vous ambitionniez quand vous étiez jeune de rendre ce monde un peu plus plus juste. Une fois l'agrégation de philosophie en poche, vous êtes demandé si c'était à l'aide de cette discipline que vous pourriez y contribuer le mieux. Puis vous citez Marx. Les philosophes, jusqu'à présent, n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses façons. Il s'agit maintenant de le transformer. Mmh. Ensuite, vous faites l'ENA, très contente d'avoir de nouveaux outils, justement, toujours pour servir cette cause. Est-ce que votre désir d'améliorer le monde est intact ?
Oui. Mon désir d'améliorer le monde est intact. Maintenant, ai-je les bons outils ? Est-ce que j'ai fait les bons choix pour le faire ? Ça n'est pas certain.
Ça, on va en reparler aussi, parce qu'on va parler de politique. Mais pensez-vous que ce désir soit utopique ou que la prise de conscience généralisée de l'urgence climatique et de la crise financière peut changer la donne ?
Mais je pense que chacun d'entre nous peut changer la donne. Je pense que chacun d'entre nous peut s'investir. Alors, on voit les personnes s'investir dans des milieux, dans des organisations différentes. Moi, j'admire beaucoup tous ces jeunes qui font des actions. Alors, on leur reproche de faire un peu n'importe quoi, de jeter de la soupe. Mais oui. Moi, je les comprends parce qu'ils sont complètement désespérés. Donc, ils essayent de trouver de nouvelles modalités d'action. Et je trouve ça très intéressant parce que les spécialistes des mouvements sociaux nous montrent bien qu'aujourd'hui, par exemple, la manifestation... c'est compliqué, elle ne donne pas toujours les résultats qu'on attend. Donc je trouve ça très bien qu'on essaye de trouver d'autres modes d'action.
Oui, puis il faut se tromper pour trouver une solution de toute façon. Dans un instant, il sera entre autres question des philosophes de l'école de Francfort, de justice sociale, de Spinoza, de Nietzsche, de Miyazaki et de statut cycladique. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Club, le titre le matin dans l'embellie sur France Inter. Nous sommes avec Dominique Méda à qui j'ai demandé ce qu'elle aimerait changer dans la société. Trois choses principales émergent. La première, que chacun soit capable de se mettre à la place des autres. Qu'est-ce que cela signifie de gagner le SMIC, d'être au chômage, d'être harcelé ? Là, vous parlez vraiment de tout le monde ou vous parlez notamment de l'État ?
Ah non, je parle de tout le monde. Je pense qu'on gagnerait beaucoup de temps et on avancerait beaucoup plus sur, par exemple, des changements de politique. si chacun, en effet, était capable de se mettre dans la peau de l'autre. C'est très rare. Hein. Alors avant, les gens le faisaient un peu par charité, quand ils étaient... parce que la religion nous dit qu'il faut qu'on s'occupe des autres, etc. Mais moi, je pense que de façon tout à fait laïque, si on était capable de se dire, bon, qu'est-ce que ça veut dire de vivre avec le SMIC? Qu'est-ce que ça veut dire tout d'un coup d'être au chômage, travailler pendant 30 ans dans un endroit, et puis ça y est, hop, je suis viré. Je pense... Alors, vous me dites pour l'État, oui, pour l'État aussi, c'est-à-dire pour tous ceux qui fabriquent les politiques publiques.
Et qui n'ont aucune notion du réel.
Bah, ils en ont, mais...
Ils ne prennent pas le métro, par exemple. Enfin, moi, j'y pense souvent, dans le métro. Je me dis que s'ils prenaient simplement le métro... Je pense aux mille et nuits, vous savez, le calife Haroun al-Rachid,
absolument,
qui se déguisait pour aller voir la température, justement, dans le peuple.
Tout à fait.
C'est-à-dire nous tous, hein.
Non,
mais tout le monde dans le peuple.
Je pense qu'en effet, c'est absolument important. Mais bon, à mesure que vous montez dans la hiérarchie des responsabilités de l'État, c'est vrai que vous n'avez plus le temps de faire tout ça. Et donc, en effet, peu à peu, vous détachez et c'est très ennuyeux.
Mais l'ont-ils jamais pris? C'est-à-dire qu'il y en a qui ne l'ont jamais pris.
Possible.
Mais je parle du métro, je pourrais aborder mille autres choses. Mais bon, Dominique Méda... Bon, c'est une question un peu biaisée de ma part. Ne trouvez-vous pas qu'aujourd'hui, on est à une époque très individualiste et que le collectif, l'idée du collectif est de plus en plus rare?
Oui, bien sûr. C'est tout à fait vrai. Il y a une progression, en effet, de l'individualisme. Et d'ailleurs, tout cela a été porté, promu, défendu par des philosophes, par des économistes. La pensée économique, la théorie économique, nous rend extrêmement individualistes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fable de Mandeville. Elle est écrite au début du XVIIIe siècle. C'est l'histoire d'un essaim d'abeilles qui vit dans le luxe et le péché. Et plus elles ont de vie, ces abeilles, plus elles produisent et plus il y a de prospérité publique. Et donc, alors, à l'époque, la fable a fait un petit peu scandale, évidemment, mais elle voulait dire que le vice privé entraîne l'enrichissement public. Mais une grande partie de l'économie nous pousse à raisonner de cette manière.
Vous voudriez justement, on va entrer plus en détail dans cette économie un peu plus tard, puisqu'on va parler de philosophes qui ont réfléchi à la notion du travail, de l'économie. Mais autre changement que vous aimeriez, Dominique Méda, c'est que chacun fasse bien son métier. Les choses changeraient beaucoup si c'était le cas. Moi, ça m'a fait penser à William Morris sur le socialisme et l'artisanat, en fait, des textes qu'il faut lire et relire.
Tout à fait.
Vous pensez à quoi, par exemple?
Mais si vous voulez, comment dire, je pense à Durkheim. Durkheim nous dit que dans la société, chacun en effet a un rôle et que le travail finalement exerce une forme de... C'est un ordre moral. Enfin, il exerce une fonction morale. C'est-à-dire que chacun est à sa place, mais nous dit-il, si on arrivait à s'élever un petit peu, on verrait que chacun est dans son rôle et en fait qu'on forme une grande chaîne de solidarité. Donc on construit le monde tous ensemble. Et ça me paraît important. Donc il faut que chacun, même si notre travail parfois nous apparaît un peu ennuyeux, savoir que chacun à notre place, nous contribuons à construire le bien commun, la société que nous voulons.
C'est vrai. Vous désirez aussi, j'ai dit vraiment c'est vrai comme quelqu'un qui n'a absolument rien à dire à ce que vous venez de dire, mais je le pense, vous voulez aussi plus de justice sociale qui permettrait d'engager plus facilement la reconversion écologique de nos sociétés. Comment concrètement ?
Alors, comment concrètement ? Vous avez vu que là, on est vraiment dans une situation, même si certains disent que non, les inégalités n'ont pas tant augmenté que ça en France, et que de toute façon la France c'est mieux que d'autres pays, mais je pense qu'on est dans une situation comme quand même effrayante d'injustice. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en effet, qui n'ont rien, qui sont, par exemple, au chômage depuis longtemps, qui touchent des minima sociaux, qu'on embête quand même beaucoup, et puis des gens qui touchent des sommes absolument astronomiques, en apportant assez peu à la société. Vous avez aussi ceux qu'on a appelés, ceux qui ont été révélés pendant la pandémie, les travailleuses et travailleurs essentiels, qui ont fait des choses hyper importantes. De quoi se rend-on compte? Eh bien, que ce sont les gens les moins bien payés et qui ont les conditions de travail les pires dans notre société. Donc, il y a bien quelque chose qui ne va pas. Et moi, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient, mais depuis que je suis jeune, je suis un peu saisie par cette injustice et j'aimerais contribuer à ce qu'il y ait plus de justice dans notre société. Je pense que notre société s'en porterait beaucoup mieux.
Je crois, Dominique Méda, que vous êtes l'invité reçu ici qui compte le plus d'engagement. Je ne pourrais pas dénombrer...
Vraiment ?
Oui, tous les groupes, associations, groupes de pensée dont avec lesquels vous contribuez. Comment vous faites pour avoir cette énergie ?
Mais je crois que je suis curieuse. Alors, deux choses, je suis curieuse. J'aime bien, par exemple, j'adorerais comprendre comment vous travaillez, comment vous avez préparé cette émission. Aussi, les personnes qui sont avec nous, comment, voilà, tout ça m'intéresse beaucoup. Et puis, peut-être encore plus, j'ai envie de comprendre. J'ai toujours envie de comprendre et je n'en ai jamais assez.
Alors que les injonctions, je reviens à l'idée d'écologie, à la sobriété se multiplient, vous rappelez qu'en matière d'écologie, le pouvoir des seuls individus demeure limité. Ça fait du bien d'être un peu déculpabilisé en ce moment.
Bien sûr. C'est-à-dire que, bon, on nous dit qu'il faut qu'on change nos conduites, nos comportements. Bien sûr, il faut le faire, hein. Mais on ne peut pas le faire dans le cadre que nous connaissons. Et qu'est-ce que c'est le cadre que nous connaissons? C'est un cadre d'abord capitaliste, d'un capitalisme actionnarial très... très intense. On est aussi enfermé dans ce que j'appelle moi un cadre cognitif qui est le produit intérieur brut, c'est-à-dire que c'est un devoir social de consommer. Donc, vous voyez, et puis je passe sur tout le reste, hein, le fait que les gens qui habitent loin et qui ont des voitures et pas de transport en commun, bah, comment font-ils pour aller au travail? Voilà. Donc, si nous voulons vraiment engager des politiques de sobriété sans devenir fous, sans devenir schizophrènes, il faut qu'on change notre système de valeurs, nos cadres cognitifs, et aussi les indicateurs avec lesquels nous travaillons.
Oui, donc pas le PIB déjà pour parler de la richesse d'une société, puisque dedans ne sont pas comprises les domaines politiques, amicaux, familiaux, amoureux, domestiques, qui ne comptent pas. Ouais. Et vous préférez, je crois, le terme de post-croissance à celui de décroissance, parce que c'est insupportable de parler de décroissance pour les personnes qui n'ont rien à consommer du tout.
C'est ça. Donc, en effet, vous avez parfaitement raison, hein, le produit intérieur brut, c'est un indicateur un peu limité parce qu'il oublie beaucoup de choses. Il oublie toutes ces activités, par exemple, qu'on fait à l'intérieur des foyers, les activités domestiques, familiales, amicales, amoureuses, vous avez raison, il compte tout ça pour zéro. Ça veut dire que si ça disparaît, eh ben, ça disparaît à jamais et on ne le voit pas. Et puis, c'est une comptabilité qui ne nous montre pas comment sont déformés en quelque sorte les patrimoines qu'on utilise pour fabriquer la production. Donc moi je propose avec des collègues, hein, je travaille beaucoup avec des collègues, là par exemple sur cette affaire de croissance et de critique de la croissance, j'ai beaucoup travaillé avec Florence Janicatrice, une économiste, ou Jean Gadret, qui m'ont appris beaucoup de choses. Et nous ce qu'on dit c'est qu'on pourrait enserrer le produit intérieur brut dans deux ou trois autres gros indicateurs, l'empreinte carbone, l'indice de santé sociale, donc pour montrer l'importance du patrimoine naturel, l'importance de la cohésion sociale, peut-être un indicateur de biodiversité, et nous voilà partis vers une société post-croissance, c'est-à-dire, on n'est plus obsédé par les points de croissance, comme si la richesse de la société se résumait à ces points de croissance, mais on poursuit des objectifs comme la santé, l'emploi, la satisfaction des besoins de tous.
Oui, puisque c'était les années Macron, Dominique Méda, vous proposez de rompre avec l'obsession de la croissance, mais pas avec les activités utiles mises au service de la satisfaction des besoins essentiels de tous. Oui. Et puis à un moment, un point noir évidemment, vous citez l'économiste austro-hongrois Karl Polanyi, les sociétés brutalisées par le déploiement du marché autorégulateur dans les années 1930 n'ont trouvé comme seule ressource pour assurer leur protection que les régimes autoritaires. Oui. C'est une possibilité aujourd'hui aussi.
Mais bien sûr, et en effet, alors il y a beaucoup de risques dans ce qu'on est en train de vivre en ce moment en France et dans d'autres pays, hein. C'est-à-dire que comme les personnes subissent des hausses de prix, des salaires qui ne progressent pas, qu'ils considèrent que l'écologie est punitive, on a un risque de révolte sociale que l'extrême droite risque de récupérer tout simplement parce qu'on sait bien que ça se passe comme ça. Et j'aime beaucoup cet auteur, très important, hein, Karl Polanyi, qui écrit La Grande Transformation et qui nous montre en effet comment des sociétés ont été brutalisées par le marché et quand elles sont brutalisées, elles ont besoin de se protéger et elles se jettent dans les bras du premier venu.
Toute personne a commencé par être un enfant, ce qui veut dire que les critères de jugement, la structuration de sa personne qui va la caractériser dans son âge adulte, lui a été imposée à une époque où il ne pouvait pas se défendre contre elle. Personne ne peut s'identifier avec son être social totalement, et c'est cet écart entre le vécu personnel et l'image de soi-même que la culture, que la société vous oblige d'assumer, c'est cet écart qui fait la créativité artistique, culturelle, philosophique d'une personne.
Dans les penseurs qui vous ont aidé à appréhender le monde, Dominique Méda, on trouve d'une manière générale les philosophes grecs et allemands, et en particulier les philosophes de l'école de Francfort, tous ceux qui ont réfléchi sur l'économie et le capitalisme, Habermas, mais aussi beaucoup André Gorz. C'est justement le philosophe, journaliste et pionnier de l'écologie politique, André Gorz, qu'on vient d'entendre dans À voix nue sur France Culture au micro de Marie-France Hazard en 90. Commençons par lui, si vous le voulez bien, dont la vie et les idées m'ont tellement ému que j'avais les larmes aux yeux en préparant l'émission. Dans l'ouvrage André Gorz, un penseur pour le 21e siècle, dirigé par Christophe Fournel, vous signez un article avec Denis Clerc, emploi et travail chez André Gorz. Vous l'avez connu ?
Oui, je l'ai connu. Quand j'ai publié mon premier livre en 1995, que j'avais un peu maladroitement intitulé « Le travail, une valeur en voie de disparition », Gorz m'avait écrit une très longue lettre dans laquelle il me disait combien il avait apprécié mon travail et je regrette de ne pas l'avoir mieux connu. En tout cas, je l'avais entièrement lu et c'est quelqu'un en effet qui a énormément compté pour moi et qui fait qui a fait le pont justement entre cette philosophie allemande que j'aimais énormément et puis des questions beaucoup plus modernes, beaucoup plus actuelles. Il a accompagné en quelque sorte mon passage de la philosophie à la sociologie.
Pour les auditeurs qui ne seraient pas familiers, il est autrichien, il a fait des études de chimie en Suisse, il est autodidacte, admirateur de Sartre, qui lui dira au début « je crois que vous méprisez un peu le concret », mais finalement fera la préface de son récit autobiographique « Le traître ». Il est ensuite journaliste à l'Express sous pseudonyme, puis participe à la création du Nouvel Observateur, et il propose des mesures radicales comme la sortie du capitalisme et une sortie civilisée.
Oui, et il participe à toutes ces discussions qui ont lieu autour des années 70, autour de la sortie du rapport Meadows.
Qu'est-ce que c'est que ce rapport, justement, qui aurait pu nous sauver ?
Un rapport extrêmement important, Limits to Growth, les limites à la croissance, donc qui est publié en 1972 et qui dit, en gros, si vous continuez de la sorte, c'est-à-dire à croître indéfiniment, alors la société s'effondrera avant la fin du 21e siècle. Et alors moi, ce qui m'a énormément intéressé, c'est la réception de ce rapport. D'une part, un économiste, William Nordhaus, décrédibilise complètement ce rapport Meadows en disant « Ah mais non, ne regardez pas ce rapport, ils ont oublié le prix. Et si vous regardez le prix, tout se règle. Et de toute façon, il vaut mieux laisser le changement climatique se passer et travailler après. Ça nous coûtera moins cher que d'anticiper et de risquer de revenir sur le niveau de vie des Américains. » Et puis, il y a une autre réaction, alors, j'adore aussi, je conseille vivement à vos auditeurs, nos auditeurs, la lettre Mansholt. C'est un texte qui est publié en 1972 par celui qui est à l'époque commissaire à l'agriculture, européen à l'agriculture, et qui va devenir président de la Commission européenne. Il lit le rapport Meadows, il est bouleversé et il dit qu'il faut mettre en place en Europe une économie de pénurie. Et dans cette lettre, il décrit tout ce qu'il faudrait faire. C'est exactement ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Et donc, on a perdu 50 ans parce que donc, le rapport Meadows n'a absolument pas eu l'écho qu'il aurait dû avoir, à la fois parce que des économistes et des politiques ne l'ont pas suivi. Et voilà pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette situation.
Dominique Méda, nous sommes atterrés. Ah oui, rassurez-nous.
Totalement atterrés.
Ah oui, vraiment, rassurez-nous. Est-ce que cette liste, est-ce que des gens aujourd'hui vivants la lisent ?
Alors, je vais vous avouer quelque chose. J'ai eu beaucoup de mal à la trouver, cette lettre Mansholt. Je l'ai, elle tombe un peu en morceaux. Je l'ai achetée sur Habibook ou enfin bref, voilà. Donc je pense qu'il faut d'urgence lire cette lettre parce que vous voyez, dans ce petit recueil, il y a le texte de Mansholt qui est assez court, hein, 4-5 pages, et puis il y a toutes les réactions des médias qui ont suivi. C'est passionnant.
Oui, et triste. Bon. Alors, parlons de l'école de Francfort. Alors, j'ai révisé pour l'émission, mais je ne vous cache pas que pour moi, Francfort, le premier mot que ça m'évoque, c'est saucisse. Donc, je vous laisse nous parler d'Adorno, d'Horkheimer et de tous ces philosophes qui ont compté pour vous, et dont ceux de la deuxième génération, Jürgen Habermas.
Alors, c'est une école, en fait, qui est, qui repense le marxisme et qui fait de la théorie sociale. Quelque chose qui n'existe pas tellement en France. En France, on a de la sociologie, on a de la philosophie. Et j'ai beaucoup apprécié cette école. Donc, ils produisent ce qu'on appelle la théorie critique, une théorie critique de la société. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé dans la société avec le capitalisme? Comment le capitalisme a, d'une certaine manière, contaminé tout? Et ils proposent, évidemment, alors d'abord, beaucoup de critiques et puis des solutions de sortie, en quelque sorte. sorte. Et donc, beaucoup d'auteurs absolument passionnants, dont Habermas, alors qui a une œuvre absolument gigantesque, qui est toujours de ce monde, hein, et qui écrit des textes passionnants. Pour moi, l'un des textes les plus importants, ça s'appelait « La technique et la science comme idéologie ». C'était un texte de 68, « La technologie comme science et comme idéologie ». Et si vous voulez, une des phrases les plus remarquables dans ce que montre Habermas dans ce livre, donc c'est une réflexion sur la science et sur la technologie, et ce qu'il montre, c'est que nos sociétés ont été de plus en plus gouvernées par des systèmes automatiques, y compris d'ailleurs l'économie, avec des équations, etc., et que ça a été de pair avec une dépolitisation de la grande masse. Voilà ce qu'il dit, avec une dépolitisation de la grande masse. Et en gros, il compare les sociétés grecques où l'ensemble des citoyens, alors d'accord, il n'y avait pas les enfants, il n'y avait pas les femmes, il n'y avait pas les esclaves, etc., mais où quand même les citoyens étaient censés délibérer ensemble sur le bien commun, et nos sociétés où ça n'est plus le cas.
Oui, on revient à cette idée de l'individualité contre collectif. Dominique Méda, dans votre panthéon existentiel, il y a aussi un livre magnifique sur Nietzsche et cette phrase de Nietzsche, « Vis de telle sorte que tu dois souhaiter de revivre ». C'est la pire menace qui soit pour beaucoup d'entre nous, c'est l'éternel retour. Vous vivez ainsi ? Vous aimeriez revenir ?
Mais je pense que si on commence à vivre comme ça, alors il faut faire très 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 attention en effet. Et alors je vous dis pas que je ne le fais pas systématiquement, mais c'est une pensée qui m'a beaucoup habité pendant longtemps, notamment pendant que j'étais jeune. Il y a une autre phrase de Nietzsche que j'adore, qui est « Les grandes idées avancent à pas de colombe ».
Oui, ça aide à être plus patient.
La page la plus drôle de Spinoza, chez tous les philosophes, il y a de grandes pages comiques, c'est lorsque Spinoza explique ce que c'est que l'aventure de Adam et l'histoire de la pomme, et que c'est l'histoire d'un empoisonnement, que c'est l'histoire d'une intoxication alimentaire, et que Adam a mangé la pomme, et que les rapports constitutifs de la pomme décomposaient les rapports constitutifs d'Adam, que Adam a été à la lettre empoisonné, il a fait une mauvaise rencontre.
Gilles Deleuze explique la pensée de Spinoza dans cette archive trouvée dans l'anthologie sonore de la pensée française par les penseurs du XXe siècle. Dominique Méda, vous avez choisi une expression créée par René Descartes et reprise par Spinoza dans son traité théologico-politique et dans l'éthique, Deus sive natura, Dieu sinon la nature, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire la nature. Comment vous l'entendez ?
Ben je l'entends comme une sorte de... J'ai beaucoup, beaucoup étudié Spinoza parce que je l'avais à l'agrégation. C'est un philosophe... absolument passionnant, et en effet c'est une forme de panthéisme, Dieu est partout, et je trouve que c'est un philosophe très moderne aussi, aujourd'hui alors que actuellement, on remet en cause toutes les pensées de la séparation, hein, Descartes qui a séparé le corps et l'esprit, la nature d'un côté, les humains de l'autre. Là, c'est une pensée au contraire de cohésion, qui, voilà, où tout est mélangé, peut-être une forme de panthéisme et d'animisme.
Dans un instant, on parlera d'un long métrage d'animation qui va dans ce sens. My love for you, my love for you, in quiet you are the thunder, thunder in my planet. You mind my body, bruise all over my skin. My lips sharing the juice of mandarin. And in the house, in the house. Fascinated by how you make me feel. She breathes out nights out in, and now I'm high. Was it all a dream? The juice of mandarin. Hold on to me, I'm going crazy. A dream. The juice of mandarins. You are the bomb. Dream, dream, dream. The juice of mandarin. Juice of Mandarins du duo IBI dans l'embellie sur France Inter, toujours en compagnie de Dominique Méda.
C'était il y a bien longtemps, dans une contrée lointaine, jadis recouverte de forêts. En ce temps-là, l'esprit de la nature veillait sur le monde sous la forme d'animaux gigantesques. Hommes et bêtes vivaient en harmonie. Mais les siècles passant, l'équilibre se modifia. Les rares forêts que l'homme n'avait pas saccagées furent alors protégées par des animaux immenses qui obéissaient au grand esprit de la forêt. C'était le temps des dieux et le temps des démons.
Le début du film Princesse Mononoke de Miyazaki, sorti en 1997, film que tout le monde devrait voir pour être armé dans l'existence, selon vous, Dominique Méda. Nous sommes au Japon au 15e siècle et je vous passe le relais pour nous parler de ce film absolument sublime et d'une grande violence.
Oui, et un film très très actuel, hein, parce qu'on a une petite princesse qui vit dans la forêt et qui défend la forêt contre les humains, contre le village des forges qui est en train de détruire cette forêt. Donc c'est une lutte un peu ancestrale et en effet hyper violente, avec des animaux qui se retournent contre les humains, qui y compris contre les humains qui leur veulent du bien. C'est magique, c'est magnifique, c'est très inspiré par justement une forme d'animisme, de shintoïsme, et c'est pour ça que je dis que c'est très moderne. Vous savez, si on pense aux travaux d'un Philippe Descola, par exemple, alors je ne dis pas qu'il y a un retour de l'animisme, mais par exemple Descola, il nous dit que la manière que nous avons, nous, de comprendre la séparation entre nature et culture n'existe pas du tout dans d'autres cultures actuellement, et donc il faut qu'on comprenne d'une certaine manière notre provincialisme.
Miyazaki n'était pas satisfait de l'image douce, idyllique que donnaient les studios Ghibli justement du rapport de l'homme à la nature, et il voulait montrer l'aspect terrible qui existe. Et ce qui est fou, vous venez de le dire, Dominique Méda, c'est qu'en effet l'homme saccage la nature. Bon, ça on commence à être habitué, mais la nature aussi est terrible envers l'homme.
Oui, la nature se venge. La nature se venge, et on voit, enfin, ces entrelacements, ce sanglier qui pourrit de l'intérieur et qui vient apporter cette pourriture aux humains, qui veut se venger des humains. Donc, en effet, une lutte. Alors, on va pas spoiler, on va pas dire comment ça se termine, mais c'est vrai qu'il y a des tas de thèmes vraiment extrêmement actuels qui sont et c'est un pur ravissement. J'aime aussi énormément cette petite fille, hein, c'est une petite fille extrêmement mûre et qui finit par entraîner tout le monde avec elle. C'est vraiment magnifique.
Ouais, c'est magnifique. Dominique Méda, je vous ai demandé ce que vous aviez raté. Et vous avez répondu, peut-être aurais-je dû faire de la politique. Je suis étonnée puisque vous avez œuvré pour l'amélioration de la vie des citoyens, donc vous en avez finalement toujours fait de la politique.
Oui, mais en fait, si vous voulez, je me suis dit à une époque, parce que mes contemporains, les gens avec qui j'étais à l'ENA par exemple, un certain nombre ont fait de la politique, et moi je me disais non, on change beaucoup plus facilement le monde en travaillant sur les idées, en écrivant des livres, etc. Bah, je n'en suis plus du tout aussi sûr aujourd'hui. Je pense qu'en effet, on le voit, hein, on change concrètement et fortement la vie des gens lorsque l'on occupe des postes politiques.
Vous avez été la conseillère travail pour Benoît Hamon pendant sa campagne présidentielle, bien que vous ne partagiez pas toutes ses idées.
Oui, c'est vrai.
C'est de la politique.
Oui. Non, c'est vrai. Mais ce que j'appelle faire de la politique, ça serait entrer en politique, c'est-à-dire avoir un mandat, se présenter devant les électeurs, être élu, ou aller dans des cabinets ministériels, etc. Ce que je n'ai jamais fait, je vous dis un peu pour ça, en me disant que c'était moins important, qu'on changeait moins la vie des gens. Et c'est ça, vous voyez, je viens d'avoir 60 ans, et c'est ça. Donc maintenant, je me dis que en effet, j'ai peut-être eu tort. Voilà, j'ai peut-être eu tort.
Mais il n'est jamais trop tard pour entrer en politique.
Bon.
Oh non. Vous étiez présente au lancement du parti politique Nouvelle Donne.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Il existe toujours, ce parti.
Il existe toujours, absolument. J'ai aussi accompagné des campagnes présidentielles. J'ai par exemple accompagné, enfin, j'ai accompagné d'une manière générale les campagnes de gauche et qui prônaient des avancées en matière de justice sociale.
Vous êtes engagé aussi avec le LIER. Qu'est-ce que c'est, Dominique?
Oui, le LIER, c'est une association de hauts fonctionnaires qui travaillent dans l'État ou dans les collectivités territoriales et qui défendent l'idée qu'il faut aller beaucoup plus loin en matière de politique de transition écologique. Et donc, c'est une sorte de réseau. Et j'ai fait avec eux, pour eux, une note sur la sobriété où j'essaie de rappeler que, justement, ce que nous avons dit au début de cette émission, c'est-à-dire que la sobriété, c'était une vertu individuelle et collective dans la Grèce antique, mais que depuis, les choses ont radicalement changé, et que donc, il y a la crainte. Je veux dire, ça n'est pas facile de mettre aujourd'hui en œuvre, dans notre pays, des politiques de sobriété. Ça ne va pas se faire comme ça.
Tout à l'heure, justement, vous disiez qu'il y avait des solutions concrètes, qu'on pouvait tous y participer. Vous avez aussi soulevé le fait que souvent, on trouvait ça punitif, les mesures qu'on nous demandait de mettre en œuvre. Quelles sont, selon vous, Dominique Méda, ce qu'on peut faire à petite échelle? Là, chaque auditeur, en sortant de cette émission, pourrait ajouter à sa vie ou enlever à sa vie, mais sans se sentir puni.
Par exemple, parler autour de lui. Essayer de convaincre chacun, par exemple 3 personnes, de l'importance d'engager un changement. Expliquer, parce qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas et qui n'ont pas le temps de toute façon. Ils n'ont pas le temps d'écouter bien les informations. Ils sont fatigués par leur travail, ils sont déçus, ils n'ont pas de moyens, ils sont étranglés, ils ne peuvent pas... Voilà. Donc... Et essayer, en effet, que chacun aille discuter avec ses voisins pour lui montrer comment nous pourrions aller vers un monde différent, plus juste, plus soutenable, comme on dit aujourd'hui. Voilà, je crois beaucoup, peut-être que je crois trop à la discussion.
Mais alors comment? Parce que là, concrètement, par exemple, j'irai voir mon voisin,
oui,
puis je lui dirai des solutions existent. Mais il faudrait que je lui en donne quand même quelques-unes.
Bah, par exemple, peut-être qu'il va vous dire « Moi, j'en ai marre de tous ces trucs-là,
bah oui,
ces politiques. On va encore m'empêcher d'entrer dans les villes avec ma vieille voiture. » Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça ne suffira pas que vous lui disiez ça. Mais peut-être, par exemple, vous pourrez vous engager dans un mouvement où on réclamera que l'État réoriente. Hein. Il y a un rapport qui a mis en évidence il y a quelques semaines qu'il y avait 160 milliards d'aides publiques aux entreprises données par l'État, ben peut-être qu'on pourrait dire que ces 160 milliards doivent être absolument ciblés, réorientés vers des entreprises qui font une production avec des normes, en respectant des normes sociales et environnementales fortes. Donc on conditionne toutes ces aides, et là on s'aperçoit qu'on peut faire beaucoup de choses avec cet argent.
Nous, à petite échelle, on peut s'engager dans des endroits agir sur ça, agir sur...
On peut,
où est-ce qu'on met l'argent ?
On peut répandre la bonne parole. C'est-à-dire, il y a tellement de gens qui disent des bêtises que déjà, aller discuter et aussi se faire entendre. Alors, je sais bien que tout le monde ne peut pas écrire des tribunes, mais faire des petits regroupements, s'investir dans sa ville pour dire que ça peut plus continuer comme ça, essayer de faire remonter des choses. Regardez la Convention citoyenne pour le climat. C'était 150 personnes. Elles ont fait des propositions tout à fait remarquables. Alors certes, elles n'ont pas été suivies d'effet, mais ça, c'était pas du tout de leur faute. Mais regardez comme les gens ont été convertis rapidement.
Vous y croyez, Dominique Méda?
Oui.
Eh bien, ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est que l'Institut Veblen ?
L'Institut Veblen, c'est une association qui a été créée il y a une dizaine d'années par quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Philippe Frémaux, qui était le rédacteur en chef d'Alternatives économiques. Il avait décidé de créer cet institut pour réfléchir sur les réformes économique allant dans le sens de la transition écologique. Alors j'ai pris sa succession, j'en suis très fière et très honorée. C'est un petit institut qui fait énormément de travail et qui réfléchit donc sur une manière de repenser l'économie pour que la transition écologique devienne une réalité, et donc pour penser aussi la manière dont il faut accompagner cette transition écologique. Donc toujours cette notion de justice sociale qui accompagne les choses, sinon ça ne... Comme on le disait tout à l'heure, hein, sinon cette transition écologique, elle ne se fera pas ou elle se fera mal.
Vous avez foi en l'humain ?
Oui. Oui, j'ai foi en l'humain et c'est pour ça que je suis toujours très étonnée par les... Il y a toujours des présupposés chez les scientifiques. Par exemple, chez une partie des économistes, quand on relit les textes, on s'aperçoit qu'eux, ils ne croient pas tellement à la nature humaine. Et donc, il y a toute une partie de l'économie qui s'est développée sur l'idée que les gens, ils n'aiment pas travailler. Donc, il faut les picoter, presque les punir pour qu'ils aillent travailler, alors que c'est totalement faux.
C'est quelque chose que vous déconstruisez justement dans l'une de vos chroniques, dans oui, C'était les années Macron.
Tout à fait. Les gens, je crois qu'ils aiment se rendre utile et alors ils veulent pas être maltraités en effet, mais c'est tout à fait normal quand on est par exemple au chômage de ne pas vouloir reprendre un boulot où on va être payé deux fois moins. Je trouve ça tout à fait normal.
Mais on serait un peu malhonnête aussi de dire qu'on n'a pas tous un sentiment de paresse assez naturel.
C'est-à-dire ?
Souvent, entre faire un gros effort et rien faire, on préfère rien faire.
Oui, bien sûr. Non, mais je ne dis pas qu'on est des êtres extraordinaires et parfaits. Mais vous savez que y a beaucoup de théories dans les débats. Et donc, certaines théories sont très, comme vous, je reprends votre terme de tout à l'heure, individualistes. L'homo economicus, il calcule et il pense qu'à lui. Et puis, il y a des théories beaucoup plus altruistes où on reconnaît que les gens aiment donner, vivre avec les autres, faire des sacrifices. Voilà.
Mais ce n'est pas une minorité ?
Je ne sais pas. Je ne serais pas capable de dire. Simplement, ce qui est très embêtant, c'est que les pensées très individualistes et qui ne croient pas dans la nature humaine et donc qui pensent qu'il faut punir, inciter, piquer, carotte et bâton, etc., elles se répandent à grande vitesse lorsque les médias ne font pas leur travail, par exemple. C'est-à-dire lorsqu'on a des médias qui laissent des personnes dire un peu n'importe quoi.
Mais c'est difficile aujourd'hui, je veux dire, moi par exemple, je n'y connais rien à ces sujets, je ne suis pas du tout une spécialiste.
Oui.
Donc je suis au même niveau que tous les gens qui n'y connaissent rien et puis qui lisent la presse. Tout à l'heure, vous parliez des gens qui disaient des bêtises. On ne peut pas savoir qui dit des bêtises
bien
ou pas.
Bien sûr, non mais vous avez absolument raison, c'est bien le problème aujourd'hui. D'où l'importance, je pense à une de mes collègues, Julia Cagé, qui défend l'indépendance des médias. C'est extrêmement important que les médias ne soient pas détenus par des milliardaires qui ont des intérêts particuliers et qui vont faire en sorte que ces médias diffusent des pensées tronquées.
Contrapolinopolis par Petros Tabouris sur l'album Musique séculière de l'Antiquité grecque, afin de nous plonger dans l'atmosphère de ce que vous recommandez de beau aux auditeurs, Dominique Méda, ou plutôt ce que vous avez vu de plus beau, les statues cycladiques, art distinctif de la civilisation des Cyclades florissantes au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Rappelez-vous, ce sont souvent des idoles de marbre portées en offrande aux morts. Je les ai découvertes grâce à vous. Comment est-ce que vous les décririez?
Alors,
elles ont un aspect particulier.
Oui, tout à fait. Ce sont des visages où il y a juste le nez qui ressort. Il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas d'oreilles, il n'y a rien d'autre. Et donc, c'est l'humanité dans sa pureté absolue, dans sa fragilité, dans sa vulnérabilité et dans sa beauté.
Où est-ce que vous les avez vus pour la première fois ?
En Grèce.
Je crois qu'il y en a au Louvre.
Oui, tout à fait. Il y en a au Louvre. Mais ça m'avait absolument saisi.
Toujours travailler. Travailler.
Prenez de la peine.
Travailler.
Voix de laboureur.
Travailler.
Disait la fontaine.
Travailler.
Sacré farceur.
Le morceau « Travailler » disait Monsieur de La Fontaine par Peter Dean et son orchestre, titre de 1962, pour introduire votre engagement de fin d'émission, Dominique Méda, moins travailler. En serez-vous capable ?
Je ne sais pas.
Comment allez-vous vous y prendre ?
Non, mais j'ai pris des grandes décisions. Je me suis dit qu'en effet, il fallait que je décélère et que je travaille moins.
Vous savez que pour rédiger l'émission, j'ai dû j'ai pas dit à peu près 45% de ce que j'avais noté, bon, ce qui est plutôt normal, mais je n'ai jamais vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui faisait autant de choses, c'est-à-dire qu'à chaque fois vous étiez engagé avec telle partie qui venait de se créer, vous étiez à l'origine, vos thèses avaient servi au mouvement Utopia, tout, c'est incroyable, on dirait que vous êtes plusieurs personnes.
Mais vous êtes un peu pareil, non ? Vous-même, vous dites que vous avez beaucoup travaillé, qu'il vous reste 55% des choses, il faut qu'on fasse une autre émission alors.
Ou une autre association.
Oui, d'accord.
Une de plus, un parti politique.
D'accord, allez, allons-y.
Mais Dominique Méda, concrètement, comment comptez-vous vous y prendre pour moins travailler ?
Je ne sais pas encore très bien.
Bon, c'est une réponse parfaite. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission.
C'est moi qui vous remercie.
Votre recueil de chroniques paru dans Le Monde vient d'être publié dans la collection Poche Chant de Flammarion sous le titre « C'était les années Macron ». Deux rééditions de vos ouvrages dans une version actualisée « Faut-il attendre la croissance ?» avec Florence Janicatrice à la documentation française et dans la collection culte « Que sais-je ?» le travail chez PUF. À signaler aussi vos chroniques hebdomadaires le vendredi sur France Culture, le pourquoi du comment, économie et sociale. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que votre âme aura cette semaine la souplesse d'un lasso en chantilly. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.